assisteront des soins à domicile mobilisés. Le service de soins infirmiers à domicile, le SIAD, sur le Sisteronnais est un service social et médico-social très actif en cette période de confinement. Sur prescription médicale, il assure des prestations de soins infirmiers sous forme de soins techniques de base aux personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou dépendantes, et aux adultes présentant un handicap ou atteints de maladies. Le service de soins infirmiers à domicile sont également et entièrement financés par l'assurance maladie sous forme d'une dotation globale. L'allocation et le contrôle des financements dépendent pour leur part des ARS, les agences régionales de santé. Dans le contexte actuel de la pandémie de Covid-19, comment s'organise le travail pour le personnel du service de soins infirmiers à domicile du Sisteronnais et à quel rythme se déroulent les journées? Rencontre avec Tania Jean, directrice du service, infirmière et formatrice consultante médico-sociale, au micro de Chris Alessandri. Tania Jean.
Alors, actuellement, ce que l'on a mis en place, plusieurs choses. De ma place, je travaille en télétravail 2 jours par semaine. Enfin, j'essaye. Mais la plupart du temps, je suis quand même au bureau, sur place, avec mon adjointe, qui est infirmière, Madame Michel. Et puis, quand je suis à la maison en télétravail, ben, je démarre vers 7h30, 8h. On fait le point toutes les deux sur l'organisation et le déroulé de la journée. Ensuite, ce qu'on va mettre en place par rapport aux patients, par rapport aux soignants, et on essaye de maintenir le courant. Hein. Et puis ensuite, on voit au niveau des tournées, par rapport aux soignants, s'il peut y avoir des problématiques qui peuvent intervenir, on va anticiper. Par rapport aux patients eux-mêmes, ce que l'on a mis en place, c'est une organisation différente. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui sont très dépendants et qui ne peuvent pas se passer de nos services. Donc eux, on continue à intervenir matin et soir pour certains, 7 sur 7 ou 5 jours sur 7. Hein. En revanche, il y a des patients chez qui on a diminué les interventions. Il y a d'autres personnes chez qui on a suspendu les interventions. Donc on va intervenir que par téléphone. C'est un choix des patients, des familles, ou alors d'un commun accord avec nous pour justement éviter qu'il y ait trop d'intervenants pour qu'ils prennent des risques, en tout cas inutiles sur le moment. Et puis, on a mis en place une fiche de surveillance, donc une vigilance téléphonique qui se fait par les soignants. Donc, je vous explique en deux mots. Il y a des soignants qui restent chez eux. Je les ai mis en veille, entre guillemets. Certains avaient des enfants jeunes, donc pour pas prendre de risques et puis pour faciliter leur organisation personnelle, ils sont restés à domicile. En revanche, ils avaient comme mission de téléphoner aux patients chez qui on n'intervenait plus actuellement. Quoi qu'il arrive, on maintient le lien social qui est là. Les soignants n'étaient pas toujours les mêmes à téléphoner aux mêmes personnes pour qu'il y ait vraiment un renouvellement, que ce soit plus dynamique et puis qu'on soit pas sur les mêmes questionnements, on n'a pas le même relationnel avec les patients. Donc du coup, c'est comme s'ils étaient toujours dans le service, même si on ne vient pas à domicile.
J'ai l'impression que c'est plus qu'un lien professionnel, là. Il y a vraiment un lien affectif avec ces personnes que vous rencontrez.
Alors, on peut pas faire l'économie de l'affect, effectivement, parce que il y a certaines personnes chez qui on intervient depuis plusieurs années. Et forcément, quand ils nous acceptent, là, ce sont des personnes qui acceptent que l'on rentre dans leur domicile. Donc, il y a un lien de confiance qui est établi. Et forcément, il y a des affinités qui se créent. Ce qui est important, c'est de ne pas perdre de vue quand même notre côté professionnel avec l'observance de la situation, des comportements qui peuvent se modifier, hein, des situations qui évoluent. Mais effectivement, on est très proche. Quand on est dans ce métier, forcément, il y a ce lien qui est fort. On intervient à plusieurs chez une même personne parce qu'on ne verra pas tous la même chose.
Tania Jean, c'est vraiment toute une logistique que vous mettez en place au quotidien, vous-même, en tant que professionnelle de la santé, en tant que directrice donc, du cabinet. De quelle façon est-ce que vous le vivez dans votre esprit, dans votre façon de réfléchir et d'agir ensuite? Bon, la cadence est très, très dense et c'est très épuisant aussi.
Oui, c'est épuisant parce que il faut penser à tout le monde, il faut penser aux patients, à tout ce qu'on peut mettre en place pour qu'on puisse anticiper cette épidémie, en tout cas qu'on puisse minimiser les risques au maximum, hein, même si le risque zéro n'existe pas. Il faut anticiper par rapport aux soignants, par rapport à leur fatigabilité due au stress qui les envahit de fait, puisque il faut absolument intervenir chez les patients avec le risque d'épée de Damoclès qu'on a sur la tête. Il y a toute une logistique au niveau du matériel à mettre en place, à acheter, à anticiper pour qu'on ne se retrouve pas en rupture de stock. Donc il y a cette dimension-là aussi qu'il faut prendre en compte. Réorganiser le service avec des tournées par secteur. Il y a aussi à penser à faire des binômes pour que justement chaque soignant puisse s'appuyer un peu sur son collègue. Et puis la disponibilité de la directrice et de l'infirmière, parce que là, à ce jour, c'est 7 sur 7, c'est presque 24 sur 24. Hein. Jusqu'à 23 heures, on échange encore des mails. On a mis en place pareil une surveillance pour les soignants, savoir comment ils sont, s'ils sont pas angoissés, fatigués, donc physiquement, moralement. Et puis, dès qu'on a le moindre doute, il y a une mise en quarantaine du soignant pour que, justement, il puisse pas contaminer des patients ni ses collègues. Donc, il faut penser effectivement à tout. Et puis, c'est du non-stop. Le matin, des fois, je me réveille dans la tête, ah oui, aujourd'hui, il va falloir absolument que j'anticipe par rapport à ce week-end, ou alors il va falloir qu'on pense à appeler la sécu ou appeler un tel parce qu'on a oublié de le faire. Plus tout ce qui peut éventuellement arriver aux soignants et aux patients.
Vous en avez parlé, la sécurité, elle est là, elle ne vous quitte pas, la conscience professionnelle également, mais la peur de la transmission, elle est là. Vous savez que vous prenez des risques en allant à la rencontre des personnes malades. De quelle façon est-ce que vous l'analysez, ça, et de quelle façon vous vivez avec ça au quotidien?
Honnêtement, je crois que quand on est dans l'action, on n'y pense pas. Quand on est dans l'action, on est dans cette vision de soins et de prendre soin de la personne chez qui l'on intervient. En revanche, c'est quand on rentre le soir à notre domicile, on a la tension qui est toujours là, mais ce qui ne se fait pas sentir quand on est auprès des personnes que l'on accompagne. Je crois que notre métier nous occulte un peu cette angoisse. En revanche, c'est après coup qu'il y a cette angoisse qui monte. On dit effectivement, je risque de le transmettre à mes proches, je risque de le transmettre à mes collègues. Et du coup, ces mesures barrières semblent énormes, j'ai envie de dire. Parce que quand on se retrouve avec ses collègues avec 1,50 m de distance, c'est vrai que c'est pas naturel. Et comme on va près des patients et que là, on a une blouse, on a un masque, on a une charlotte, on a des surchaussures, on a très chaud d'ailleurs, on est vraiment bâché. Donc là, si vous voulez, la proximité avec les patients, elle peut se faire. Donc on est dans une habitude d'accompagnement, même si on est plus bâché qu'habituellement.
Vous, la professionnelle de la santé que vous êtes, quel regard est-ce que vous portez sur l'avenir, sur cette pandémie? Qu'est-ce que vous en pensez? De quelle façon vous la voyez, vous, évoluer?
Moi, je suis quelqu'un de très optimiste et je pense que cette situation difficile va mettre en lumière des nouveaux fonctionnements, des nouveaux regards sur ce qui peut être fait à la fois au domicile, mais à la fois dans le secteur médico-social. Et puis, je pense réellement qu'il y a une ouverture d'esprit qui va se faire sur ces liens que l'on a les uns les autres, qui étaient plus dans le discours, mais qui n'était pas forcément dans la réalité des actes. Je pense aussi que les soignants vont être valorisés parce qu'ils n'ont pas lâché. Donc je pense que ça va perdurer.